Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à tous. Vous êtes sur les ondes de CKIA, l'émission Puissance Maximale, votre émission hebdomadaire sur le monde ludique et sur la culture geek. Et bien sûr, nous sommes lundi, le 8 septembre, c'est la rentrée ici à CKIA. Et Vincent Langlois au micro, en compagnie de Sébastien Léonard. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et juste avant le thème de Puissance Maximale qu'on a bien sûr à chaque émission, nous avions une petite pièce de Taxi Nouveau, petite pièce de musique d'ambiance, disons quelque peu électronique, et cette pièce était faite à partir d'un Game Boy.
Exactement, imaginez-vous. Oui, oui. En fait, Taxi Nouveau, c'est un Montréalais qui fait ce qu'on appelle... de la musique 8-bit, c'est-à-dire à partir de musique complètement innovante de la part de ce personnage-là, puisqu'il s'agit tout simplement d'aller chercher les bons vieux bip bip bloup bloup de nos Game Boy d'antan. Et puis en effet, c'est très intéressant. Je t'avouerai que j'espère très prochainement pouvoir l'inviter à l'émission. Ça serait très agréable de pouvoir l'avoir ici, puis qu'il nous parle un petit peu de ce mouvement 8-bit.
Tout à fait. On va s'arranger en fin de compte pour l'avoir bientôt avec nous. Nous allons commencer l'émission aujourd'hui avec, en fin de compte, la suite de ce que nous avons eu en entrevue la semaine dernière. Vous vous rappelez, chers auditeurs, et Sébastien, c'est toi qui avais conduit l'entrevue de Hello Geekette, en fin de compte, du site www.hellogeekette.com qui sont en fin de compte des sketchs qui racontent la vie d'une geek avec son coloc qui ne l'est pas du tout et vivent toutes sortes d'aventures. Eh bien, on ajoute, je crois, différents épisodes presque à toutes les deux semaines. Je crois que c'est deux épisodes par mois qu'ils veulent mettre sur le site. Et il restait l'entrevue d'environ d'une dizaine de minutes avec, en fin de compte, un des personnages principaux de cette aventure, celui qui a le rôle du coloc.
Greg, c'est ça. Oui. En fait, son vrai nom, là, parce qu'il a un vrai nom dans la vraie vie, là, puis il tient absolument à ce qu'on en parle. Il s'agit de Jérémy Malavo. Puis, ce qui est assez amusant, c'est que suite à l'émission de la semaine dernière, eh bien, on a eu aussi la visite des coproducteurs sur le forum de Puissance Maximale. D'ailleurs, je vous invite à aller tout simplement aller sur le site de Puissance Maximale et peut-être d'aller discuter avec le co-directeur et le co-producteur de la série, parce que c'est très intéressant, puis c'est vraiment le fun, ça vaut vraiment la peine d'aller voir à quoi ça ressemble. Puis bon, tout de suite, immédiatement, on va aller rejoindre Jérémy Malavo, aussi alias communément appelé Greg, dans la série Geekette, et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Bonjour Greg.
Bonjour, oui. Alors, Jérémy, hein, dans la vraie vie.
Oui, je m'en doutais un petit peu,
c'est
Jérémy.
C'est bien de le savoir aussi.
C'est clair. Dis-moi, Jérémy, toi, comment tu perçois cette série-là en tant qu'acteur? Comment tu l'aperçois?
Comment je l'aperçois en tant qu'acteur?
Oui.
C'est une très bonne question, ça. Alors, comment je l'aperçois en tant qu'acteur? Je trouve que... alors, moi, déjà, l'univers geek, je connaissais absolument pas en tant que... c'est quelque chose, c'est un univers que j'avais pas aucune notion et tout ça. Donc en regardant ça, je me dis que effectivement, ça peut parler vraiment à n'importe qui. Et en tant qu'acteur, je trouve que elle ouvre aussi par rapport à un humour, assez particulier. Ça peut parler vraiment à des gens qui ont l'univers geek et qui n'ont pas l'univers geek et qui arrivent quand même à se retrouver. les uns avec les autres, et c'est, il n'y a pas de parti pris, si vous voulez, donc c'est ça qui est intéressant. Et au niveau de l'humour, ça prend bien, parce que c'est deux univers complètement différents. Donc en tant qu'acteur, je trouve ça vachement intéressant de faire un format assez court sur cet univers-là. Et moi-même, j'étais surpris de, bah voilà, quand je voyais les rushs et quand je voyais la finition et le résultat final, j'étais assez surpris. Et ça parle vraiment à tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que les deux univers peuvent être vraiment bien coordonnés, même s'ils sont assez différents.
Ouais, tout à fait. Puis toi, avec ton personnage, j'imagine que tu dois quand même avoir certaines affinités, mais en même temps, tu arrives à t'en dissocier. Mais disons que comment tu l'abordes, Greg? Comment toi, quand tu veux te mettre dans la peau de Greg, comment tu dis que tu vas jouer ton personnage?
Bah, je mon personnage de Greg, j'étais pas vraiment. Quand je joue Greg, je suis moi-même un peu largué, parce que parfois dans le scénario, il y a des termes, bon, sur des références geeks ou des références de manga, des références de dessins animés. Bon, que moi, il y a certaines références que je connais un petit peu, donc souvent je me laisse un petit peu surprendre par les mots. Je cherche pas vraiment à savoir de quel dessin animé ça vient, de quel personnage vraiment la référence et tout, et je me laisse vraiment surprendre par Je fais aucune recherche sur toutes les références geeks, et je me laisse vraiment surprendre par le scénario dès que je tourne, et comme ça on sent vraiment que mon personnage est toujours un peu largué quand Valérie lui explique des trucs sur son univers manga et geek, et lui et voilà, je le rends un peu plus lourd par rapport à ça. Je grossis le trait par rapport à ses réflexions sur cet univers-là, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est fermé là-dessus. Ça l'amuse, mais il va pas rentrer là-dedans, mais ça l'amuse. Je pense pas qu'il soit complètement sectaire, mais il regarde ça, il est un peu paumé. Donc j'utilise souvent ce truc-là pour Greg, dans le sens où je fais aucune recherche sur les mangas, comme on peut avoir quand on a un rôle. On essaie de chercher un peu l'historique des choses. Bon, là, je cherche pas du tout, je me laisse vraiment embarqué dans cet univers, l'univers de Valérie.
Dis-moi, on sent qu'il y a quand même beaucoup de complicité entre toi et puis justement Valérie.
Oui.
Est-ce que c'est la réalité aussi?
Le court-métrage qu'on avait fait ensemble avant Hello Geekette, et donc on formait aussi un duo. C'était vraiment un duo, il n'y avait aucun personnage secondaire, donc en plus c'était un court-métrage d'un jeune couple et tout, donc on était assez proches. Bon, on n'a pas couché ensemble, mais on était assez proches, donc c'est ça qui était bien. Donc avec cette fille, on a passé quoi 2-3 semaines à bosser ensemble, donc c'est sûr qu'après on se connaissait bien. Elle connaît mon humour, moi je connais un peu sa répartie et tout ça, et en tant qu'actrice, voilà, c'est un duo qui fonctionne. Donc c'est vrai que sur Hello Geekette, on s'est vachement bien retrouvé, parce que je connais sa façon, son style de jeu, elle connaît un petit peu le mien, donc voilà, c'était assez agréable de jouer là-dessus, et donc c'est vrai que le duo prend bien aussi dans Hello Geekette, quoi.
Dis-moi juste, pour sortir peut-être du personnage, est-ce que c'est le fun sur le tournage, est-ce que t'as du plaisir à tourner cette série-là?
Ouais, complètement, parce que vraiment c'est sur le coup, moi j'ai toujours plaisir à faire mon métier, hein, donc mais surtout particulièrement ici, parce qu'en fait c'est vraiment, on travaille avec c'est vraiment un côté assez famille, et toute l'équipe, c'est ça qui est vachement bien, c'est que il y a aucun on doit rien à personne, c'est ça qui est vachement bien, c'est que nous on donne du travail, même si on n'est pas comme disait Julien tout à l'heure, pour l'instant rémunéré. Moi je fais ça vraiment avec plaisir quand j'arrive, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance de plateau, quand on c'est vraiment une ambiance de copains, il n'y a aucune prise de tête, tout le monde se connaît bien, tout le monde, il n'y a aucun jugement de valeur et tout ça, et donc c'est ça qui est vachement agréable, c'est quand il y a un travail de groupe comme ça, un petit peu de copains, et c'est le travail s'en ressent vachement, et c'est vrai que sur le côté ambiance du plateau, c'est génial, quoi, parce qu'il n'y a pas... moi je sais que je suis assez bout en train sur les plateaux quand je fais un peu mon boulot. Alors souvent on me dit, quand c'est très professionnel, on me dit il faut que je sois beaucoup plus discret, et là ça va, parfois c'est vrai qu'il faudrait que je sois plus cool, mais c'est ça qui est bien, voilà, c'est que vraiment l'ambiance générale est vachement agréable, et donc c'est parti pendant, moi je peux en faire 20, 30, 40 épisodes, hein, c'est parti.
Ah oui, c'est à ce point-là, mais c'est vraiment génial.
Ouais, à ce point-là, vraiment. Non, mais ça, c'est pas du tout pour... c'est vraiment très sincère. Moi, je suis quelqu'un qui marche à ça. Moi, ça m'est arrivé de refuser beaucoup de plans parce qu'il y avait une mauvaise entente sur les plateaux. Et là, c'est... Là, même s'il n'y a pas un aspect financier pour l'instant, moi, je trouve que c'est ça qui me fait bosser, qui me donne envie de bosser avec eux. C'est pour ça, quoi. C'est que tout de suite, on a installé un climat de copains et en même temps, il y a du travail, quoi. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est vachement professionnel et en même temps, il y a beaucoup de déconnes et le boulot est vachement plus agréable. Quand tu sors d'une journée de tournage de 8 heures avec eux, bon, bah, t'as l'impression d'avoir bossé, oui, mais t'as le smile quand tu sors, t'es vachement content.
Et merci beaucoup, hein, on va vous suivre, ça c'est une certitude, et puis on va croiser les doigts pour que vous soyez diffusé peut-être sur des télévisions, ça serait vraiment bien.
Ça serait génial, vraiment, parce que c'est. Si aussi on peut dépasser un peu les frontières françaises, hein, ça peut être génial.
On va l'espérer vraiment beaucoup, puis nous on va faire un maximum pour vous faire connaître.
Allez-y, puis on vous invite à Paris un jour, et puis on boit le rosé tous ensemble, un petit verre d'un rouge, et puis nous on viendra aussi au Québec.
C'est vraiment génial. En tout cas, bonne journée, et puis merci encore pour l'entrevue. Bon, salut à tous.
Merci beaucoup.
Salut, bye bye.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximale.
Alors, vous êtes invité, bien sûr, à visiter le site www.hellogeekette.com justement pour aller voir ces vidéos qui sont vraiment amusantes. Et bien sûr, peut-être justement, on aura la chance de les rencontrer, peut-être de les avoir même en entrevue ici même, si jamais ça devient plus gros ici au Québec.
On l'espère,
Mais
l'espère.
C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va continuer en musique, Sébastien?
Oui, avec évidemment, on est parti sur une des raps avec Taxi Nouveau.
Taxi Nouveau, bien sûr.
On va continuer sur la même lancée, c'est-à-dire on va écouter une deuxième pièce de Taxi Nouveau. Puis on se retrouve tout de suite après.
Place à la chronique de Mathieu Place.
Et oui, le temps Salut. De reprendre notre souffle de cette chanson de Taxi Nouveau, en fin de compte, et de
c'est d'entrer. Quelque chose, hein, ça.
Bien sûr, le thème de Mathieu Place ne faisait pas partie de cette chanson.
C'était une belle transition. Très difficile de distinguer les deux. Moi, j'ai même pas vu le enchaînement tellement c'était bon.
C'était super bien fait.
Mais c'était complètement psychédélique en Taxi Nouveau, là. C'est quelque chose, hein. J'imagine que sur une piste de danse, là, ça doit être assez
Mais ça se danse pas. C'est sûr que ça se danse pas.
Ouais, on a plus réussi.
s'énerver dessus là. T'sais, on peut devenir fou, ouais. S'énerver avec un peu d'alcool dans le sang là, je pense que ça peut aider.
Il y en a qui réussissent quand même à danser sur ces types de chansons. Moi, vraiment, c'est pas vraiment mon style, mais en tout cas, bon.
En tout cas, sûrement que sur YouTube, on doit pouvoir voir du monde danser sur cette musique-là, c'est sûr.
Possiblement.
Ah oui, c'est ça. On est déjà trop vieux pour ça. Là. Enfin, bon, ben, écoutez, je vais vous parler d'actualité encore une fois, comme à chaque semaine, on va parler de ce qui s'est passé dans les jeux vidéo dans les derniers jours. Bon, petite nouvelle en passant, c'est de savoir que le nouveau jeu de Harry Potter, Avis aux amateurs, va être reporté. En fait, le film a été reporté. Il était supposé sortir, je pense, à l'hiver pour Noël. En fait, c'est la tradition dans beaucoup de cas des Harry Potter. Là,
depuis
c'est
plusieurs
sorti,
années.
C'est ça, à l'hiver. Et puis, bon, c'est ça. Le film a été reporté à l'été et le jeu vidéo aussi a été reporté à l'été pour concorder avec la sortie du film. On pense que ça va être un très grand succès. Bon, j'ai pas essayé les autres jeux de Harry Potter, mais je crois que c'était quand même une assez bonne qualité. En fait, traditionnellement, beaucoup de jeux qui se rapportent à des films sont souvent assez décevants. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est...
Moi, j'avais essayé un de ces jeux-là. Je me souviens plus lequel. C'était Lost. Justement sur PC.
C'était Lost.
Mais c'était pas Lost. Non, mais je veux dire, un jeu d'Harry Potter. Mais Lost, oui, ça, j'étais vraiment perdu. Mais pour ce qui est du jeu d'Harry Potter que j'avais essayé parce que, bon, bien sûr, ma filleule, là, qui avait peut-être 7-8 ans à l'époque, avait un de ces jeux-là. Oh. Et bon, j'avais dit, je vais voir qu'est-ce que c'est. C'était quand même intéressant, oui, mais déjà là que je suis pas un joueur PC, ça a pris quand même du temps avant encore là que j'utilise le clavier et la souris. Mais quand même, je trouvais que c'était quand même bien fait et facile pour les jeunes.
Ben, j'imagine la bataille de Quidditch doit être assez le fun à jouer. Là. Ça doit être quelque chose là avec le côté où est-ce qu'on s'envole, on essaie de rattraper l'espèce de petit truc en or, etc. Il me semble qu'il y a du potentiel pour
un bon jeu. Je vais
t'avouer
franchement que je m'étais pas rendu à cette bataille-là. Okay. Moi, j'étais encore vraiment dans le manoir là, à me promener avec les différents escaliers qui changeaient de place et ces choses-là, puis là, ramasser des chocos grenouilles. En fin de compte, moi, je suis pas un expert de l'univers d'Harry Potter, donc je m'excuse si jamais je fais des fautes ou des erreurs en parlant de ces termes-là vraiment qui font partie de ce monde merveilleux.
Ben, en fait, j'imagine que c'est une belle option là pour les parents qui veulent acheter un jeu qui est quand même acceptable pour leurs enfants. Alors, ça va sortir à l'été prochain. Bon, autre nouvelle. Là, on en a parlé beaucoup de fois à ma chronique sur la actualité, c'est le jeu sport. À pas confondre avec les sports. Sport comme un champignon, là, si vous voulez. C'est la nouvelle création de Will Wright qui nous a donné SimCity, SimEarth, bon, la gamme des Sims et plus récemment les The Sims, qui est la franchise en termes de jeux vidéo qui a fait le plus d'argent, qui a eu le plus de succès depuis le début des jeux vidéo. Alors, ça bat Grand Theft Auto, ça bat les Pac-Man, Space Invaders du passé. Même les Mario, ça reste à voir parce que bon, il y a toute une gamme de Mario qui a sorti, mais en termes de un seul jeu là qui a du succès, c'est The Sims qui a eu le plus grand succès de tous les temps. Alors ça, c'est sa nouvelle création. En quoi ça consiste? Eh bien, vous allez créer un petit être unicellulaire qui va devoir grandir, devenir une petite créature comme une espèce de petit chat là, ou une petite créature simple. Ensuite de ça, ça devient une créature qui bâtit un village, une civilisation. Et ensuite de ça, cette créature-là va explorer d'autres planètes. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce jeu-là, bon, on en a parlé ici, mais c'est vraiment spécial, c'est que une fois que vous avez créé votre créature, eh bien, elle est automatiquement uploadé sur Internet et d'autres personnes à travers le monde vont pouvoir combattre cette créature-là. C'est-à-dire que quand vous allez jouer au jeu, bon, vous allez rencontrer d'autres créatures sur votre planète que vous allez devoir combattre, eh bien, ça se peut que ce soit la créature qui a été créée par un autre joueur au Japon, en Chine, etc. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est justement...
Finalement, ça fait un espèce d'énorme écosystème. Quoi.
Ben oui, c'est ça, exactement. Il paraît qu'il y en a déjà 3 millions qui ont été créés.
3 millions.
Bon, c'est ça. Vous en avez de toutes les sortes. Il y en a qui ressemblent à des humains, il y en a qui ressemblent à des petits diables, des petits anges. La créature de Cthulhu a été créée.
A-t-elle été battue?
Je sais pas encore, parce que le jeu est sorti hier. En fait, ça fait pas très longtemps que c'est sorti.
C'est
ça
sorti
fait
hier,
une journée,
il y a
seulement.
Déjà 1 million de...
Ben, en fait, ils avaient déjà sorti sur Internet le créateur de créatures, si vous voulez. Alors, comme ça moussait un petit peu l'intérêt. Et puis là, les gens pouvaient créer déjà des créatures qui allaient être disponibles disponible dès que la sortie du jeu allait se faire.
Alors, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que je t'avouerais que quand on se balade sur Internet, on se rend compte à quel point il y a vraiment énormément de monde qui adore le jeu, en tout cas qui font référence. Puis on voit beaucoup d'images de plus en plus apparaître de ces fameuses créatures absolument improbables.
Si vous voulez avoir un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler, vous avez juste à aller sur YouTube et puis vous avez toutes sortes de vidéos avec justement chacune des créatures. Alors tout le bestiaire de Lovecraft a été créé. Vous avez beaucoup de créatures qui ressemblent à des organes génitaux humains. Alors
oui, on reconnaît
bien la nature humaine là-dedans, de saboter les choses. Bon, c'est correct. Moi, je trouve ça très drôle. C'est sûr que là, si mon petit enfant y jouait, il aurait besoin d'un accompagnement adulte, là, j'imagine, pour ça. Mais en tout cas, toujours est-il que le concept est vraiment intéressant et puis ça laisse encore place à beaucoup de créativité. C'est une des caractéristiques des jeux de Will Wright, c'est de laisser de la place à beaucoup de créativité.
Puis est-ce qu'on voit, par exemple, le nom du créateur qui apparaît quand on attaque cette créature-là? Parce que je fais le parallèle avec la Wii. Mm-hmm. Quand on crée nos Mii, nos avatars, personnages, disons qu'on peut s'en faire envoyer entre amis, quoi que ce soit, ou on peut en rencontrer dans des jeux avec vraiment notre visage, tout ça. Et on voit, en cliquant parfois sur ces avatars-là, qui a créé, on met le nom et tout ça. Est-ce que c'est possible?
Le nom de la personne. En fait, je suis allé sur le site web et, sur le site web, on se rend compte que le nom de la créature est là parce qu'on doit la nommer et le nom du créateur est là. Mais bon, c'est des noms qui ressemblent à des adresses e-mail, JoeX666, là, etc. Alors, ils sont quand même identifiés. Alors, j'imagine que dans le jeu, ça doit être possible aussi d'avoir l'identification. Il y a peut-être une part de droit d'auteur là, par rapport à ça. Mais c'est vraiment fascinant. C'est de voir la créature évoluer. Et en plus, ce jeu-là, ça a pris 5 ans à construire parce que Will Wright voulait absolument que ça corresponde à l'évolution des créatures sur la Terre. C'est-à-dire que ça suive la même logique par exemple des créatures qui s'adaptent à leur environnement, qui essayent de survivre et qui doivent se développer, se complexifier et se spécialiser. Alors en tout cas, c'est vraiment quelque chose là, je pense que c'est un bon pas dans une direction là conceptuelle là, du côté des jeux vidéo. Autre nouvelle, vous avez justement, on en a parlé, on en avait glissé un mot dans une chronique antérieure, mais c'était le nouvel outil de Emotive. Alors notez le nom, Emotive. Cette compagnie-là de San Francisco se prépare à faire toute une révolution dans le domaine des jeux vidéo. En fait, c'est pas un jeu qu'elle va créer, c'est une espèce de d'un contrôleur. C'est un contrôleur, mais ça se place sur la tête. Alors, au lieu d'avoir un contrôleur entre les mains avec des touches ou bien les outils que vous avez avec la Wii, eh bien, vous mettez un casque sur la tête qui est quand même assez simple, là. C'est pas une grosse machine. Et puis, vous avez des capteurs dessus. Et ça permet de contrôler la machine avec vos pensées. Alors, je t'allais faire des petites recherches là-dessus. Et puis, bon, évidemment, c'est pas aussi magique.
C'est pas
magique.
Les pensées, là. Hein? C'est,
non, c'est ça. C'est pas
plus des émotions qui...
Ben, c'est ça. Vous avez déjà un capteur d'émotions. Alors, vous avez les émotions de votre visage qui peuvent être captées par l'ordinateur. Mais pour ce qui est des pensées, il y a quand même des capteurs de pensées. Mais c'est pas... par exemple, si vous voulez que votre personnage attaque, vous n'avez pas à penser le mot « attaque » dans votre tête. Et puis là, le personnage va attaquer. On n'est pas encore en là. Ce qui est possible, par exemple, c'est que...
Est-ce qu'il faut que tu t'énerves un petit peu, là?
Ça ressemble à ça, exactement.
Ah, okay,
si, par exemple, vous voulez que votre personnage attaque, peut-être qu'une des fonctions, ce serait de vous concentrer. Alors, c'est capable de... les capteurs sont capables de capter la concentration, la relaxation de votre cerveau, etc. Alors, il va falloir jouer avec ça.
Est-ce que c'est un produit qui est déjà sorti sur le commerce, là, ou est-ce que c'est en développement?
C'est en développement dans les dernières années, mais là, on a déjà les premiers exemples qui sont sortis dans les foires commerciales du jeu vidéo. Alors, les gens l'ont essayé. Vous pouvez aller sur Internet, voir quelques essais. Il y a beaucoup de blogs qui en parlent, des gens qui ont pu l'essayer sur les planchers des foires commerciales. Et puis, ça va être mis sur le marché dans la prochaine année. Alors, le prototype existe. C'est quelque chose qui va arriver dans la prochaine année.
C'est sûr que ça risque d'être super intéressant de voir à quel type de jeu ça va s'adresser, là. Puis, dans la même lignée, je t'avouerais que j'ai, en lisant sur Wired, qui est le fameux le magazine geek par excellence États-Unis, j'ai pu constater que ce genre d'idée-là avait donné d'autres idées à d'autres concepteurs. Entre autres, il y a une compagnie à l'heure actuelle qui est en train de développer exactement le même concept, mais avec une possibilité de faire des manipulations grâce à la langue.
À la langue.
Imaginez un peu tout un panel au niveau de la langue. Vous avez tout votre palais qui est transformé en panel de contrôle pour contrôler ce que vous voulez à travers la maison ou dans votre petit ordinateur. Ça risque d'être extraordinaire. L'avenir va être sûrement quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr.
Vous vous souvenez du film La Matrice? Il me semble que ça ressemble à ça tranquillement. Là, on va devenir des êtres passifs là, qui vont pouvoir tout contrôler avec nos pensées, notre langue, des petits bouts, avec nos mains peut-être un petit peu encore. Mais ça commence
non,
à ressembler à ça.
Non, les mains ne serviront plus à rien.
Et puis,
du tout. On va se les faire enlever. Ça, c'est tellement
voilà,
rien.
Carrément, peut-être. Hein. Mais toujours dans le même magazine Wired, j'ai vu un nouvel article, justement, qui me fait penser à la matrice. C'est de voir que, justement, la vision artificielle est possible. C'est une nouvelle technologie qui est possible. Bon, évidemment, la vision artificielle, là maintenant, ça s'adresse aux aveugles. Il s'agit de plugger là, carrément des fils dans le cerveau humain. Là, ça rentre dans la tête jusqu'au cerveau. Et puis, un ordinateur avec une petite caméra va capter les alentours, va faire une carte des alentours et va envoyer l'information au cerveau humain. Alors, les gens aveugles, grâce à l'ordinateur, grâce à la caméra, vont pouvoir capter ce qui est autour d'eux. Et puis, c'est vraiment incroyable comme technologie parce que les gens sont capables de conduire une voiture grâce à ça. Alors, si vous voulez aller chercher sur Internet, vous avez juste à chercher Artificial Vision et puis vous allez avoir toute l'information là-dessus. Évidemment, bon, c'est ça. Là, c'est
puis
encore
surtout, faites attention aux aveugles qui conduisent
une voiture, ouais, en tout cas.
Si vous voyez qu'ils ont une grosse machinerie autour de la tête, là, méfiez-vous parce que c'est ça, c'est une vision artificielle. Alors, si vous combinez ça, par exemple, avec le casque dont on a parlé tantôt, eh bien, là, vous avez une machine qui permet d'envoyer de l'information à un ordinateur grâce à vos pensées. Et puis, vous avez une machine qui vous permet à l'ordinateur d'envoyer de l'information à votre cerveau. Alors, vous n'avez plus besoin des yeux, plus besoin de rien, plus besoin d'être actif. Vous avez juste à vous asseoir, à penser. Et puis là, vous pouvez entrer dans un autre univers qui va avoir été conceptualisé par d'autres, des programmeurs, etc. Alors,
puis
c'est,
en plus, si
c'est
vous êtes en réseau, vous avez plein d'amis partout.
Oui, c'est ça. En plus,
c'est incroyable.
C'est ça. Mais là, on commence à entrer dans un terrain un peu bizarre, là, parce que imaginez qu'il y a des publicitaires qui s'intéressent à ça, là. Vous allez avoir des publicités de Coca-Cola dans vos rêves.
Mais les publicités sont déjà rentrées dans les jeux vidéo depuis quelques temps. Là, mais maintenant, c'est devenu systématisé. Là, c'est assez incroyable.
Ben, c'est ça. Jusqu'ici, moi, je trouve qu'ils sont quand même encore assez discrets. Là. Ils ont quand même une certaine mesure, là, une certaine éthique. Là. Mais bon, une fois que c'est rentré dans notre cerveau, là, c'est quelque chose. Imaginez un virus aussi qui embarque là-dedans. Là, et puis que c'est direct dans votre cerveau. Là, et, bon, je sais pas, un virus qui vous fait vivre l'enfer. Bon, c'est pas très drôle. En tout cas, alors c'est le futur. Bienvenue dans le futur, mesdames et messieurs.
Et bientôt dans un cinéma près de chez vous, même pas dans votre chambre à coucher.
Oui, c'est ça, carrément. Là. Alors, c'était les nouvelles pour cette semaine. Vous irez chercher ça sur Internet, là, Artificial Vision et Emotive avec T-I-V à la fin. Vous allez avoir toute l'information sur ce dont je viens de vous parler.
Bien, merci beaucoup, Mathieu Place. Et on va passer tout de suite en musique avec Sébastien.
Oui, souvenez-vous que cet été, nous avons eu certainement le plus bel été en ce qui concerne tout ce qui est d'activité. Là, ça a été un été... Québec était sur la map en fin 2008, ça a été vraiment l'année de Québec. Puis parmi tous les événements possibles et imaginables, moi il y en a un que j'ai suivi, ben je suis sûr que c'est pas celui que vous avez tous suivi, il s'agit du Festival Off de Québec qui chaque année fait vraiment apparaître des petits bijoux dans tous les domaines et en particulier en musique. Et cette année, on avait le droit à la présence de la Patère Rose, je sais pas si vous étiez là, mais c'est excellent puis on va en écouter immédiatement un extrait.
Je suis fixe. Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de CKIA, et il y a quelques semaines de ça, Sébastien Léonard, et en fin de compte, ça fait environ une semaine et demie,
oui,
ont participé au GN des Maiserets. François Gécouillard également, et notre collègue Michael, et bien sûr, ils ont fait des monstres.
Ça a été une grande partie de rigolade d'abord. Là.
J'imagine, j'imagine. Et en fin de compte, Sébastien a préparé un reportage pour nous, un reportage sur la vie de
oui.
ces monstres.
En fait, il s'agit d'un documentaire animalier sur la vie des monstres du, dans les GN, en particulier celui du Maiseret, qui, à mon avis, est le seul que je connaisse, donc forcément. On fait des documentaires sur ce qu'on connaît. Puis ça dure à peu près 5 minutes, mais c'est assez croustillant.
Der Uhu ist die größte heimische Eulenart. Er erreicht eine Flügelspannweite von 1,70 Meter. Seinen lautmalerischen Namen trägt dieser Riese der Nacht aufgrund des weithörbaren Rufes Uhu, Uhu.
Faune et flore des grandeurs nature. Découvrons cette semaine le monstre errant. Dans le parc du Maiseret, à la nuit tombante, des ombres cauchemardesques se découpent sur les murs du domaine. Le monstruosus erratum, aussi communément appelé monstre errant, rôde. Depuis quelques années maintenant, une équipe de chercheurs amateurs s'est beaucoup intéressée à ce monstre méconnu. Puissance maximale, dans sa soif de connaissance, a décidé d'aller rencontrer cette créature méconnue.
T'es un monstre, oublie ça, c'est une occasion pour les joueurs de taper dans le tas. C'est clair que tu vas te faire taper alors, ok? Ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est quand même probabilitif. Alors ton but, c'est d'avoir l'air effrayant. T'es pas là pour dialoguer, t'es pas là pour parler, t'es pas là pour te faire charmer ou pour te faire offrir des pots de vin. T'es un monstre. Okay.
Je suis ton pire cauchemar.
Ouais, faut le habiller, faut le. Tu voudrais peut-être pas changer ça, hein? Ouais, parce que là, il faudrait. Qu'est-ce que... Avec quoi qu'on l'habille, le jour là?
En été, on est des cauchemars.
Bon, ben là, pour vous donner un cauchemar, là, ça veut dire. Quel type de cauchemar?
Celui qui fait peur.
Il y a des costumes, il y a du linge, il y a du verre, il y a des capes.
Ok, allons-y. Écoute, n'importe quoi, là, quelque chose qui va faire la job.
Parce que
vous en avez vraiment du stock,
là,
c'est cool.
Parce que c'est tellement fluo.
C'est ça parce que t'as un peu le bâton.
Oh oui. Ah, je m'en sers bien.
Et oui, maintenant, nous sommes en embuscade dans les fourrés et nous entendons les héros qui s'en viennent petit à petit. Ils hurlent. C'est terrifiant. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous leur apprêtons. Nous sommes des ombres de la nuit. François, ombre numéro 1. Mike, ombre numéro 2. On a perdu Mike. Il est où Mike?
Merci créature.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Alors, excellent reportage. Sébastien nous a fait vivre vraiment ce qu'est la vie d'un monstre. Et vraiment,
c'est pas toujours facile.
C'est vraiment incroyable. On voit très bien, imaginez-vous, là, se faire fesser dedans là, en, en faisant des
hurlements. Est-ce que le monstre peut se défendre ou
c'est... Oui, non. Le monstre a le droit de se défendre, mais il y a quand même une éthique du monstre. Soyons clairs, okay. Là, il y a une vraie éthique. Il ne faut pas absolument tuer tous les héros d'entrée de jeu parce que sinon, les héros sont pas contents.
Les héros s'en vont puis le jeu fini.
Il n'y a plus vraiment de jeu après la partie.
C'est qu'on nous demandait très sérieusement d'être extrêmement sweet, mais de juste faire peur. Vous avez dû remarquer d'ailleurs mon interprétation du cauchemar.
Oui, j'ai vu ça.
Incroyable.
Mais
c'était très réussi.
Oui,
Pas,
on te voyait même pas et on avait peur en plus.
Imagine.
Mais t'es prenais par surprise ou t'es...
Oui, il y avait. En fait, c'était un grand système d'embuscade. Je t'avouerais qu'on a vécu beaucoup d'embuscades et puis de tentatives de retournement. Puis c'était très très drôle d'ailleurs. À tous ceux qui ont un vendredi soir, peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire un vendredi soir, faites un monstre dans un GN. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais quelle occupation de vendredi soir.
C'est une belle place en plus. Mézeray, il y a un labyrinthe. Hein. Ça doit être utilisé ça, le labyrinthe justement dans le jeu ou c'est
là que les monstres se retrouvent.
Sûrement, j'imagine.
Ça, ok, ça marche.
Mais vraiment intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. C'était très bon. Alors, moi, je vais juste vous parler un petit peu du monde insolite des jeux. En fin de compte, ça fait quelques semaines que je parle de violence ou on blâme toujours Grand Theft Auto. Là. Vous savez, là, cette fameuse nouvelle qui revient à peu près aux trois semaines. Là. Grand Theft Auto blâmé pour telle chose. Grand Theft Auto blâmé pour telle autre chose. Et bien, cette semaine, en lisant les fils de presse, les nouvelles des jeux, j'ai une nouvelle pour vous. Alors, Grand Theft Auto blâmé pour les mauvaises actions des jeunes. Une mère dit que ce jeu-là l'a sauvé.
Oh, oui,
imaginez-vous
ça fait changement.
Qu'à la fin du mois d'août, 9h du soir, petite famille américaine, la famille Norris, qui se dirige vers une petite ville en Illinois, va rencontrer des amis en fin de compte, et perte de contrôle de la voiture, collision avec le garde-fou, la voiture fait 4 tonneaux, le toit, en fin de compte, se compresse, la vitre arrière, c'était une Cherokee, la vitre arrière de la Cherokee explose et tout ça, et bon... Plus grand monde ne bouge dans cette voiture-là. Ils sont 5, 2 parents avec 3 enfants. Et c'est une fillette de 11 ans, donc l'aînée de la famille, qui réussit à sortir et à extirper son frère et sa sœur de la voiture et à aider ses parents à sortir de la voiture.
Ben voyons.
Et oui, c'est ce que la nouvelle dit. Eh bien, imaginez-vous que la mère a fait comme commentaire lors d'une entrevue que... Sa fille savait comment faire. Elle a tellement vu de voitures renversées, exploser dans Grand Theft Auto qu'elle ne voulait pas finir ainsi. Donc, la mère qui, cette fois-ci, dit que le jeu Grand Theft Auto était extrêmement efficace, sauf que, oubliez pas, la fillette, 11 ans, et le jeu Grand Theft Auto, c'est un jeu pour 18 ans
oui,
plus.
Semblait, hein.
Oui,
alors,
c'est
où
vrai,
est le problème dans l'histoire?
Il y a un bug là, là-dedans, là. Mais bon, tant mieux. Hein. Écoutez, la fille a réussi à apprendre à sauver les gens grâce à Grand Theft Auto.
Moi, ce que je pense, c'est pas que la fille a joué beaucoup à Grand Theft Auto, mais c'est plutôt que la mère a beaucoup joué à Grand Theft Auto. Donc,
peut-être.
Forcément, elle a dit, c'est forcément Grand Theft Auto qui m'a sauvé.
Ou bien tout simplement, la mère et le père, justement, jouent ensemble à Grand Theft Auto et c'est la raison pour laquelle ils ont fait un accident.
Ah oui!
en fin de compte, on ne sait pas. On saura jamais, mais bon, Grand Theft Auto a blâmé tout le temps. C'est certain que la violence dans les jeux, il y en a. Que ce soit un jeu plutôt réel, en fin de compte, quand je dis réel, les jeux de guerre, les choses comme ça, là, les joueurs veulent vraiment se sentir peut-être dans une ambiance comme ça. Il y en a de la violence. Je pense qu'on ne pourra jamais passer à côté de ça. Il y avait des gens qui disaient il y a quelques semaines que la violence, ça vend. Bon, ça vend au cinéma, ça vend partout. Je pense qu'il faut juste avoir une attitude là, qui est très... éduqué, dans un
par
sens.
Par rapport à ça, oui, oui.
Faut vraiment penser que, bon, les jeux de 18 ans et plus, on les garde pour les gens de 18 ans et plus, tout simplement. S'il y a des parents qui veulent donner, bon, le Grand Theft Auto à leur fillette de 11 ans, comme cette gentille dame de l'Illinois, c'est son choix, mais bon, je pense que la violence, il peut y en avoir, c'est certain. On n'est pas tous des amateurs de ça, mais il y en aura tout le temps, tout simplement. Je voulais juste dire aux amateurs de Mario Kart que le 8e tournoi est en cours jusqu'au 10 septembre, donc il reste pas grand jour pour jouer. Qu'est-ce que le tournoi de Mario Kart?
C'est un
tournoi en ligne. Le jeu Mario Kart, bon... depuis le Nintendo 64, nous permettait de faire des petites courses entre amis. Et bon, on prend un bolide avec un personnage de Mario.
Ouais.
Et ce sont pas des courses de Formule 1 ou des courses de NASCAR dans lesquelles, en fin de compte, on fait seulement courir. Le meilleur arrive en premier. C'est que au fur et à mesure qu'on fait la piste, on peut ramasser différents objets et on peut les envoyer sur nos adversaires, là, que ce soit... Puis ce sont des objets qui sont souvent liés au monde de Mario. Là. Des champignons qui
nous
font aller plus vite.
Carapaces de tortue.
Des carapaces de tortue qui permettent d'éliminer un adversaire. Donc, avec le Mario Kart Wii, qui nous a permis d'aller justement en ligne jouer à Mario Kart, bien sûr, on peut rencontrer du monde entier. Donc, on a le choix de jouer avec le monde entier, jouer avec les gens qui sont de notre continent, ou bien jouer les gens qui sont de notre région, tout simplement. Et ils ont instauré avec ça des tournois. Donc, possibilité de faire, par exemple, la meilleure piste, le meilleur tour de piste sur une piste X. Et c'est ce qui arrive finalement jusqu'au 10 septembre. C'est possible de faire le tour rapide de la Nintendo 64 Skyscraper ou gratte-ciel, si vous préférez. Mm-hmm. Donc, le meilleur temps sera peut-être son petit avatar ou son petit mi sur la liste des meilleurs joueurs.
Est-ce qu'il y a un prix en argent, peut-être?
Il n'y a pas de prix en argent, bien sûr. C'est seulement c'est pour l'honneur. S'amuser.
Okay.
L'honneur, justement, d'avoir son visage parmi toute la gang.
C'est déjà quelque chose.
Parce qu'en fin de compte, une fois que tu t'inscris puis que tu as fait ton tour, bon, bien sûr, tu l'enregistres, tu retrouves la figure de ton mi sur cette fameuse ligne des champions.
Wow.
Donc, des moins bons jusqu'au meilleur, tout simplement. Et je voulais juste mentionner, avant de terminer dans ce monde insolite-là, j'ai découvert cette semaine un jeu sur la PlayStation. Vous savez maintenant qu'avec le téléchargement, la PlayStation, la Xbox, la Wii nous amènent, bon, des jeux qu'on avait d'antan, en fin de compte, nos bons vieux jeux vintage du temps, donc on peut jouer encore à Contra. J'ai rejoué cette semaine à Soul Calibur, le premier, qui est un jeu de combat qui vraiment intéressant. C'était quand même bien fait pour l'époque. Bon, on a les vieux Mario et tout ça. Mm-hmm. Mais également, il y a des concepteurs de jeux qui ne prennent pas beaucoup d'espace, là, comme les jeux sur le disque ou des choses comme ça, qui créent des jeux quand même originaux à leur façon. Chez Nintendo, on appelle ça le WiiWare. Donc, on se permet de télécharger des jeux dans la Wii. Eh bien, sur le PlayStation, il est sorti dernièrement le jeu qui s'appelle The Last Man. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, The Last Man? C'est tuer un héros. Et tu dois sauver les gens dans une ville des zombies. Bon, quelque chose qu'on a déjà vu,
ouais,
que ce soit un Resident Evil, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est une vue un peu à la Pac-Man. On est au-dessus de l'action, de la mêlée, et ce qu'on voit, c'est une partie de ville, que ce soit San Francisco, que ce soit Santa Fe, ça peut être Washington, et ce sont les cartes des vraies villes, un peu à la Google Earth. Donc, une vision
bonne
de Google
idée,
Earth,
ça.
Et notre
bien.
Bonhomme se promène, en fin de compte, d'en haut, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à là, puis les gens qu'on sauve, ce sont des petits points, tout simplement, là, qui nous suivent, et il y a une zone de sécurité où on les amène, mais c'est quand même intéressant, parce qu'on se promène de façon très haute, disons, mais dans les rues de ces villes-là, donc on a quelque chose qu'on a connu en fin de compte avec Google Earth, donc les plans de ville à partir du ciel. Et on a intégré ça dans un jeu qui est quand même assez, je dirais, excusez-moi l'anglicisme, mais addictive. On commence à jouer, puis on n'a pas le goût vraiment d'arrêter. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et bon, bien sûr, si on rencontre un zombie ou quelques monstres, que ce soit sur la route, on est éliminé, ou en tout cas, on perd des points. Uh-huh. Mais vraiment, là, c'est un jeu là, que je conseille. Si vous avez une PS3, vous voulez vous le télécharger, là, ça vaut la peine.
C'est des joueurs amateurs, des programmeurs amateurs qui ont créé ce jeu-là?
Pas vérifié c'était quoi, en fin de compte. Okay. Là, j'ai joué sur le comme ça, mais je pense pas que ce soit des programmeurs amateurs. Là, vraiment, ce sont des compagnies. La plupart des jeux qu'on peut télécharger, que ce soit sur les trois consoles, c'est souvent des compagnies qui sont bien installées, là, ou quand même des compagnies émergentes également, là, qui font quand même du bon travail.
OK, mais professionnels. OK, wow.
Alors, on va passer avec une chanson, Sébastien?
Oui, tout à fait, oui. En fait, on reste à Québec et on va aller écouter une pièce musicale de Pascal Asselin, alias Millimétrique, qui a sorti son album cette année avec Northwest Passage New Era. Vous aurez remarqué quand même mon accent anglais extraordinaire. Là. C'est quand même assez incroyable. Puis, juste une petite chose en passant, Millimétrique va être justement mercredi soir. Et il y a le gros show de la rentrée à l'Université Laval. Incroyable, ce show-là, vraiment. On va avoir Millimétrique, We Are Wolves, on va avoir Olifac et Digitalism, qui est vraiment que des excellents groupes que je vous conseille mille fois d'aller voir. Puis pour l'instant, eh bien, on va écouter tout de suite Millimétrique avec la pièce C'est écrit trop petit pour mes yeux qui sont vieux. Donc on ira tout à l'heure. Salut.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et toujours sur les ondes de Sequoia, nous sommes en compagnie de François Gécouillard.
Oui, qui arrive en catastrophe de Montréal.
Et oui.
J'ai lutté contre ma vie pour revenir ici parce qu'en plus, les éléments sont contre moi, la pluie est tombée. Fait que là, je ramène avec une petite entrevue de Olivier Lamontagne. Olivier Lamontagne, qui est un créateur complètement déchaîné de jeux de plateau. Il a fait toutes sortes de jeux. Et il nous a fait essayer un jeu qui s'appelle Boom Patate. Donc, c'était pendant les journées.
Boom Patate, c'est bien ça?
Le nom est super déjà. Là, ouais.
Faut pas oublier qu'en fin de semaine, c'était les journées ludopathiques de Grande B. Donc, vous voyez, c'est important. C'est un moment charnière dans les jeux de plateau au Québec, là, une fois par année. C'est très important.
Comment ça s'est passé d'ailleurs? Il y avait combien de monde? C'était comment?
Moi, je suis arrivé juste dimanche, donc samedi, il y avait plus de gens, évidemment. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de monde et les gens avaient l'air pas mal déchaînés. Un jeu qui a retiré l'attention, je dirais, Chinatown. Donc,
à suivre.
Okay. On en connaît qu'il y a toute une histoire sur Jean-Pierre. Est-ce qu'on écoute ça immédiatement? Donc, l'entrevue avec Olivier
Lamontagne.
Alors, salut Olivier, créateur de Boom Patate. Dis-moi, comment t'es venu cette idée-là de faire un jeu sur un boui-boui de Québécois qui vend des poutines et des frites?
Ben, c'est que j'allais au Café Récréation, puis j'ai parlé à un Français qui dit « il n'y a pas de jeu sur la poutine ». Puis là, ça m'a fait réfléchir à la question. Il n'y a pas de jeu sur la poutine, mais je vais en faire un.
Ça me l'air que c'est vraiment un Français qui t'a inspiré à faire ce jeu-là?
Oui, il m'a dit « il n'y a pas de jeu sur la poutine », puis je trouvais que c'était une honte.
Une honte nationale.
Oui, fait que j'ai remédié à la situation.
Écoute, pour les gens qui ont pas le jeu devant eux, c'est quoi exactement Boom Patate? Comment t'expliquerais ça?
C'est n'importe quoi. C'est deux jeux en un, en fait, parce qu'il y a deux équipes qui s'affrontent. Ben, pas tout à fait deux équipes. C'est qu'il y a deux cuisiniers, deux caissières qui vont être en compétition, qui vont essayer de crier plus fort que l'autre caissière. En même temps, il y a les cuisiniers qui vont essayer de fournir le plus possible les demandes des deux caissières. Donc, la caissière qui a le moins bien fourni a une mop comme signe d'incompétence. Puis c'est pareil pour les cuisiniers. Fait que c'est... Les employés moins productifs passent la mop. C'est tout simplement ça.
Dans le fond, c'est un jeu qui n'a pas de tour, ça veut dire que tout le monde joue en même temps et ça crée un espèce de chaos pas mal complet. Là.
C'est bien ça.
Puis c'est comment ça est-ce que la réaction est bonne pour ce jeu-là?
Oui, généralement c'est assez bien reçu. Ça joue vite, ça s'apprend vite.
C'est ça.
C'est bien pris.
C'est ça, il y a des éléments gagnants, là, justement la rapidité, la simplicité. Tu me disais que tu avais des réticences peut-être à te faire éditer, tu disais que tu n'étais pas sûr?
Je sais pas encore, je vais peut-être le peaufiner un peu.
OK.
Et, il marche bien, mais on m'a demandé plus d'affaires, complexifier un petit peu le jeu. Même s'il marche bien comme ça, il y en a qui veulent avoir un petit peu plus de challenge en juin. Comme peut-être rajouter des poutines italiennes ou ce genre de choses-là.
OK. Parce que le jeu devient trop facile pour les vétérans de Boom Patate.
Oui, c'est sûr que l'expérience, ça compte pour beaucoup. Souvent, c'est lui qui crie le plus fort qui va gagner ou c'est le plus rapide. Faut servir d'un petit peu de ses forces d'après le rôle qu'on a pour s'adapter.
C'est ça. Soit on crie plus fort, soit qu'on fait des signes. Puis dis-moi, pour finir, Olivier de la Montagne, là, est-ce que tu penses que ce jeu-là pourrait avoir du succès en France? Là? Après tout, c'est un Français qui t'a donné l'idée.
Ah, je sais pas, mais probablement. Faudrait peut-être qu'un Français le rapporte et qu'il le montre, dire que c'est un souvenir de son voyage, je sais pas.
Et peut-être faire découvrir la poutine à ses confrères. Ben écoute, je te remercie, Olivier.
Ça fait plaisir.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
C'est Madame Folle qui parle. En fait, j'aimerais juste dire qu'il y avait la première version de Moose Booze, hein, le jeu de plateau d'Orignal qui cheese. Donc, il y avait la première version du jeu de plateau officiel.
Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est comme
il est? Bien, il est bien. Oui, mais j'ai fait la remarque à Eric, j'ai dit, c'est dommage, il n'y a plus de petit Orignal en plastique parce que maintenant, l'Orignal est une espèce d'image imprimée.
Bon, peut-être dans une prochaine édition.
Alors, on va terminer avec l'agenda de la semaine. On vous rappelle que demain soir au Café Aga, ce sont les mardis soirs de Go. Si vous voulez aller jouer, c'est là. Et ce soir, on vous invite à l'Abraham Martin.
Oui,
18h dans quelques minutes. Nous sommes à l'Abraham Martin pour une soirée de jeu. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous rappelle que l'Abraham Martin se situe entre la Côte d'Abraham et la Rue Saint-Vallier dans l'escalier.
Ah oui, venez nous rejoindre, ça va être drôle.
Et vous pourrez écouter notre émission de nouveau sur puissancemaximale.com ou bien sur lepetitpeuple.fr. Et vous pouvez nous laisser des commentaires également en allant sur notre site internet de puissancemaximale.com. Et l'émission qui suit, c'est Dread al Control.
En fait, c'est maintenant une émission...
C'est vrai, excusez-moi, j'étais sur l'horaire de...
Une nouvelle programmation.
De l'ancienne programmation.
Voilà. Homologue, donc une émission sur...
C'est vrai. Le retour de Homologue avec la nouvelle saison.
Oui. D'ailleurs, on les salue.
Eh oui. On les rencontrera dans quelques minutes. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes, merci premièrement François et Sébastien, Mathieu Place, de vous être déplacés et on vous souhaite une bonne semaine.
Middle harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo! All right. Take it home.
Croyez-vous que les politiciens tiennent leurs promesses?
Québécois, Québécoises, à vous la parole. Avec Kilomètre Zéro, le nouveau magazine de Télé-Québec.
Cette semaine, Karina Marceau reçoit Bernard Landry.
Kilomètre Zéro, ce soir, 19h.
Kilomètre Zéro, la couleur Télé-Québec.
Dans une atmosphère musicale électronique, l'objectif de l'émission Transcendance est de présenter, avec un esprit à la fois ouvert et critique, différents regards et points de vue sur l'être humain, la société, les institutions. Transcendance, un rendez-vous philosophique ficelé par Éric Talbot, les lundis 22h sur les ondes de CKIA 88,3 FM.
Facture de chauffage trop élevée? Courant d'air désagréable? Tournez-vous vers le programme Éconologie.